Le journal Florence Paracuellos. Bonjour Florence.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Elles font chauffer les platines pour la première fois depuis 15 mois. Les boîtes de nuit rouvrent leur dance floor ce vendredi. Rendez-vous à l'Oxyclub dans la Somme dans un instant. Et faut-il vraiment sortir en boîte au moment où l'épidémie repart, d'autant que le variant Delta est plus résistant au vaccin? C'est confirmé par l'Institut Pasteur. Vous poserez la question d'ailleurs au ministre de la Santé dans 20 minutes, Amélie.
Oui, Olivier Véran est l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions et réactions dès maintenant. Maintenant au 01 45 24 7000.
Courir le 100 mètres sans acclamation, huis clos à Tokyo pour les Jeux dans 15 jours. La fête du sport sera décidément bien triste cette année. Acquittés au bout de 8 ans, les deux pilotes de la Ferrari cocaïne, blanchis par la justice en appel. On reviendra sur leur parcours rocambolesque. Dans ce journal aussi, la Pologne qui lève le voile sur les violences sexuelles de son église. Le Rassemblement National qui veut interdire le voile islamique dans la rue, un retour aux fondamentaux. Et puis le Tour de France et ses personnages. Ce matin, l'ancien coureur Bradley Wiggins.
France Inter.
Ça n'est sans doute pas le meilleur moment pour retourner en boîte en pleine reprise épidémique. Pourtant, c'est bien ce soir que les discothèques remettent le son. La dernière fois, c'était le 14 mars 2020. Depuis, plus rien. Alors cette réouverture avec passe sanitaire et jauge à 75% sonne comme une renaissance pour les professionnels de la nuit. Surtout dans cette boîte de la Somme, près d'Abbeville, qui venait justement d'ouvrir avant d'être abattue en plein vol. Reportage à l'Oxyclub de Mareuil Cobert, signé Hélène Fromanti, France Bleu Picardie.
Seulement un petit mois d'existence au compteur. Alors pour le gérant, ce soir, c'est un peu comme une première.
Je pense que je suis même plus stressé d'ouvrir maintenant que quand on a repris l'établissement.
Pendant ces 15 mois, Steven Marzin a survécu, notamment grâce aux aides de l'État, mais ça n'a pas été simple.
Je suis quelqu'un qui a toujours eu une activité. J'ai jamais arrêté de travailler, donc ça a été très dur moralement.
Alors il a profité de la fermeture pour faire des rénovations.
Alors, toutes les peintures. D'ailleurs, ça brille de mille feux, les paillettes.
Ou encore élargir la piste de danse.
Là, c'est le cœur de l'établissement, oui. C'est là où on oublie tout.
Je veux retrouver la piste de danse, revoir les gens bourrés en trans.
Le carton du moment, c'est Qu'est-ce qu'il y a avec Mika Cicero et DJ Chris Muck.
Mes dépenses rentrées quand il fait jour dimanche.
Pour pouvoir aller danser, on pourra faire un test antigénique gratuit devant l'établissement.
Oui, c'était important. La majorité des jeunes n'est pas vaccinée et faire un test PCR. On ne prévoit pas d'aller en discothèque. Je peux dire à 22h, sortie de restaurant, on va aller faire un tour dans l'établissement.
En tout cas, ce soir, malgré la jauge fixée à 90 personnes, il y aura du monde. Déjà 80% de réservations.
On a hâte de mettre les lumières et de voir tout ça plein et de voir les gens heureux, de les voir s'amuser et puis de les retrouver aussi parce qu'ils nous manquent.
En espérant, dit-il, ne pas subir de nouveaux coups de frein, on croise les doigts.
Voilà, un gros kiff qui va faire la diff, pas pour le pire, on l'espère, au moment où la Catalogne referme ses discothèques pour cause de progression du variant Delta, exponentielle chez les jeunes. En France, on a compté presque 4500 nouvelles contaminations hier, en forte hausse par rapport à la semaine dernière. Et ça se confirme, Véronique Julia, le Delta plus contagieux est aussi plus résistant au vaccin, selon l'Institut Pasteur.
Principal enseignement de l'étude, le sang des patients ayant eu le Covid au cours des 12 derniers mois ou qui ont été vaccinés avec deux doses de vaccin Pfizer ou AstraZeneca restent neutralisants face au variant Delta. Les anticorps agissent sur ce variant. Ils sont malgré tout 3 à 6 fois moins puissants que face au variant Alpha, le variant anglais. Autrement dit, il faut des concentrations d'anticorps 4 fois plus élevées pour neutraliser le variant Delta par rapport à la souche Alpha. Le vaccin sera donc protecteur chez une personne vaccinée deux doses et qui a dans les premiers temps beaucoup d'anticorps. Mais à mesure que le temps passera et que son taux d'anticorps diminuera, le variant Delta pourrait prendre l'avantage, d'où l'intérêt d'une éventuelle troisième dose. L'étude montre d'ailleurs que les personnes vaccinées avec une seule dose, ce qui est le cas encore de beaucoup de monde, et qui ont de ce fait encore peu d'anticorps, sont très peu protégées face au variant Delta. L'étude s'est penchée aussi sur les traitements utilisés pour prévenir les formes graves face au variant. Ils restent pour la plupart efficaces. Un seul des 4 anticorps monoclonaux testés dans cette étude est resté inactif.
Et il faudra une troisième dose pour les premiers vaccinés qui sont aussi les plus vulnérables. C'est Jean Castex qui l'envisage pour renforcer l'immunité face aux variants. Dans le même temps, le labo Pfizer annonce qu'il s'apprête à demander une autorisation pour cette troisième injection en Europe et aux États-Unis. Réponse de l'agence américaine du médicament, les Américains n'en ont pas besoin pour l'instant. Triste flamme à Tokyo, symbole de l'olympisme, arrivé dans un stade vide cette nuit. À l'image de l'ensemble de ces jeux décrétés à huis clos hier, les athlètes seront donc seuls face à leur performance, Stéphanie Morat.
On nous enlève une part réjouissante de notre sport, mais il ne faut pas oublier pourquoi on fait du sport. La réaction du vice-champion olympique du décathlon, Kevin Mayer, résume bien l'état d'esprit général, y compris dans les disciplines moins médiatiques où les Jeux sont un peu le moment de gloire. Le Français Tom Jiquel, engagé en badminton.
Ce qui est bizarre, c'est que je suis pas déçu. En fait, ça reste mes JO à moi et rien va m'enlever mon enthousiasme. C'est vrai que ça aurait fait une super pub. Mais après, je pense que ça passe aussi par les résultats. Si on fait une médaille, même s'il n'y a personne dans les gradins, ça sera une super scène d'exposition, quoi qu'il arrive.
Et si nos sportifs sont aussi résignés ou résilients, c'est parce que la pandémie est un paramètre intégré désormais, avec un bémol.
Évidemment, le fait de l'avoir anticipé ne veut pas dire que c'est nécessairement simple.
Meriem Salmi, psychologue entre autres de Teddy Riner.
Ce qui va le plus marquer, c'est l'étrangeté. Quand vous rentrez dans un stade olympique et c'est complètement vide, il y a une atmosphère qui est très singulière au jeu.
Mais à l'heure de décoller pour Tokyo, après une année de compétition perturbée et de huis clos, la psychologue se veut confiante.
Vous savez, quand vous êtes préparé dans ces conditions-là, c'est ce que je leur dis aussi, et que ça a été aussi dur, on ne va pas se démobiliser parce qu'il n'y a pas de public au dernier moment.
378 athlètes français partent en quête d'une médaille olympique.
Stéphanie Morin. Eux étaient en quête de justice, les voilà acquittés.
Les deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne rejugés en appel après une première condamnation à 6 ans de prison. 700 kilos de drogue avaient été découverts à bord de leur Falcon en République Dominicaine en 2013. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
C'est donc l'épilogue 8 ans plus tard de cette histoire rocambolesque.
Une arrestation très médiatisée, une fuite organisée vers la France et une condamnation en France en première instance. Il y a 2 ans, les deux hommes ont accueilli hier soir le verdict un peu sonné, Maître Antoine Veil, leur avocat.
Vous savez, une décision de justice, ça fait du bien quand ça dit la vérité, mais ça peut pas non plus effacer les 8 années qui viennent de traverser d'un coup de baguette magique. Ça a été 8 ans d'enfer pour eux, ils ont eu leur famille détruite, leur vie de pilote aussi détruite. Cette décision est certes une forme de soulagement, mais n'efface pas la dureté de l'épreuve qu'ils ont eu à traverser.
Et cette épreuve, elle démarre en mars 2013. Les deux anciens militaires décorés, reconvertis en pilotes de jet privé, sont arrêtés sur le tarmac de Punta Cana avec 2 autres Français. 700 kilos de cocaïne retrouvés à bord du Falcon 50 qui devait rejoindre Saint-Tropez. La justice dominicaine les condamne à 20 ans de prison. Parallèlement, en France, leur comité de soutien hétéroclite s'active et organise leur fuite rocambolesque, ce sera par bateau en octobre 2015. Alors que la République dominicaine confirme les 20 ans de prison, les 2 hommes et 9 autres personnes sont jugés en France début 2019. Bruno Audos et Pascal Forêt écopent de 6 ans de prison. Hier soir, c'est donc finalement la relaxe qu'ils ont obtenue après 12 heures de délibérés. Des peines sont toutefois confirmées dans cette affaire, celle des 2 responsables de la société de jet privé, 6 ans de prison et 18 ans de prison confirmés pour Ali Bouchareb, le commanditaire du trafic.
En Haïti, voisine de la République dominicaine, on ne sait toujours pas pour qui ils ont agi. 28 mercenaires accusés d'avoir assassiné le président Jovenel Moïse. 4 ont été tués. Certains sont en fuite, les autres ont été arrêtés selon la police. 15 Colombiens et 2 Américains. Les responsables de la sécurité du président sont aussi mis en cause pour leur passivité au moment de l'irruption du commando.
8h08 sur France Inter. C'est l'un des pays les plus catholiques d'Europe.
La Pologne, où 97% des habitants déclarent leur appartenance à l'Église. Jusqu'ici, les signalements d'agressions sexuelles au sein de l'institution étaient quasiment inexistants. Mais les temps changent là-bas aussi et l'épiscopat polonais fait face à une vague de révélations. Une ligne d'écoute pour les victimes a même été ouverte. À Varsovie, voici le reportage de Sarah Bakologlou.
L'initiative Blessés dans l'Église a commencé en mars 2019 et depuis plus de 340 appels ont été passés sur cette ligne d'écoute. Katarina Sroshenka en est la porte-parole.
Chaque semaine, nous avons de nouveaux cas de violences sexuelles, de nouvelles souffrances. Notre initiative est la première du genre en Pologne. On était tellement frustrés devant le manque d'action de l'Église polonaise et on se sentait responsable aussi. C'est notre Église.
Après la diffusion de plusieurs documentaires à la télévision sur des scandales de pédophilie dans l'Église, le nombre de psychologues de la ligne d'écoute a dû être doublée devant la hausse du nombre d'appels. Une libération de la parole qui se heurte encore à des résistances dans ce pays catholique, selon Katarina Sroshenka.
Notre rêve était d'avoir des affiches avec notre numéro de téléphone dans chaque paroisse de Pologne. On leur envoyait ces posters, mais nous avons reçu beaucoup d'appels négatifs de croyants pour qui cela suggérait que chaque prêtre est un danger pour l'enfant.
La ligne d'écoute de Blessés dans l'Église propose à ceux qui appellent de les mettre en contact avec des avocats et de les accompagner devant les autorités ecclésiastiques. Mais certaines voix restent invisibles, déplore l'association. Aucune statistique n'existe sur ceux et celles ayant subi, adultes, des agressions sexuelles de la part du clergé.
Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
On a appris il y a quelques minutes, une jeune fille de 17 ans a été tuée par balle près de Marseille, victime collatérale d'une fusillade. Elle se trouvait à l'arrière d'une voiture qui a été criblée par les balles d'un fusil d'assaut et d'un fusil à canoncier. Les titres de séjour des étrangers, beaucoup moins renouvelés cette année, 28 000 refus, c'est 50% de plus que l'an dernier, en grande majorité motivés par des questions d'ordre public contre des étrangers qui ont commis des infractions en vertu des consignes passées par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Au Rassemblement National, rendez-vous les 11 et 12 septembre pour le lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. D'ici là, c'est la pause estivale et l'occasion de peaufiner sa stratégie. Pas de retour au Front National et à ses excès, avait soutenu Marine Le Pen au congrès du RN le week-end dernier. Pourtant, certains fondamentaux restent d'actualité. Le RN projette par exemple, Élodie Forêt, une loi contre l'islamisme et l'interdiction du voile.
Interdire le voile dans l'espace public, Marine Le Pen y pense depuis longtemps. Mais jusque-là, elle n'a pas trouvé l'astuce juridique qui lui permette d'interdire uniquement le voile. En 2012 et 2017, tous les signes religieux ostensibles étaient donc concernés, y compris la kippa. Elle le justifiait en 2016 sur BFM.
Je pense que chacun des Français, y compris nos compatriotes juifs, peuvent comprendre que si on leur demande un sacrifice pour lutter contre l'avancée de cet islam politique, ils le comprendront parce que ce sera dans l'intérêt supérieur de la nation.
Ou encore récemment lors du débat contre Gérald Darmanin sur France 2.
Je me suis exprimée depuis 15 ans sur ce sujet et j'avais dit d'ailleurs à nos compatriotes de religion juive, s'il faut vous demander effectivement un effort, un sacrifice pour éviter la montée en puissance de l'islamisme dans notre pays, je vous le demanderai.
Mais au congrès de Perpignan le week-end dernier, changement de pied, nous travaillons à bannir uniquement le voile, confie la présidente du RN. À la manœuvre, celui qu'elle considère comme son futur garde des Sceaux, Jean-Paul Garot, ex-rapporteur de la loi sur le voile intégral et qui veut s'en inspirer. Derrière les signes extérieurs de modération, donc un durcissement de ton avec une loi visant l'islam et rien que l'islam, comme une clarification du message pour rassurer sa base et la remobiliser.
Élodie Forêt, il avait insulté un livreur et une femme à Cergy-Pontoise. Un homme a été condamné à 2 ans de prison ferme hier pour violence, injures publiques à caractère raciste et apologie de l'esclavage.
Direction la Croisette et la Vie de Palace pour des étudiants.
À Cannes, ils ne sont pas clients mais embauchés en renfort le temps du festival pour cause de difficultés de recrutement. Ils sont par exemple une vingtaine de jeunes sans expérience au Martinez, célèbre hôtel de la Croisette. Sacré job d'été, allez nous dire Yann Gallic. Ben voilà, on l'a, sacré job
à
d'été.
À 19 ans, Melchior n'avait jamais mis les pieds dans un palace. Cet étudiant en philosophie et sciences sociales travaille aujourd'hui comme serveur au Martinez pour les banquets et les soirées cocktails.
Hier, on faisait le banquet Chopard, hier soir. C'était assez stressant, effectivement, parce qu'il y avait pas mal de célébrités, etc. On était à peu près un serveur pour 2 personnes.
Jusqu'à présent, Melchior n'avait aucune expérience dans l'hôtellerie.
C'est, je trouve, le meilleur job étudiant qu'on puisse rêver. L'ambiance est fantastique ici à Cannes, surtout pendant le Festival du cinéma.
Quand vous êtes arrivé dans ce palace, quelle a été votre impression ?
Un grand waouh, c'est vraiment sublime. En plus de ça, on a la chance d'être hébergé dans une chambre de l'hôtel. C'est le rêve absolu.
Le Martinez, qui appartient au groupe Hayat, cherche à promouvoir la diversité dans son recrutement. Garaba travaille ici comme valet de chambre. Il vit habituellement à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne. C'est la première fois qu'il vient à Cannes.
Ça impressionne toujours de voir des gens qu'on voit plus à la télé ou des choses comme ça, mais on est là pour le travail. C'est vrai qu'il y a de la pression et que c'est pas facile, mais avec de la motivation, on y arrive.
C'est une belle opportunité, vous trouvez,
d'être ici ? Oui, c'est une belle opportunité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance-là. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je veux continuer dans l'hôtellerie. Ça m'aide et ça montre de nouvelles choses.
Si l'on compte les saisonniers et les salariés permanents, le Martinez emploie plus de 500 personnes pendant le festival.
Yann Gallic à Cannes, la chasse aux voitures assumées. À Paris, stationnement plus cher, 2 fois moins de place à la rentrée. Il va aussi falloir rouler moins vite quand on n'est pas coincé dans les embouteillages. La capitale passe à 30 km/h, excepté sur les boulevards des Maréchaux et sur le périphérique, où la vitesse ne change pas. 30 km/h, à peine plus que la vitesse d'un coureurs du Tour de France en montée. Ils iront beaucoup plus vite aujourd'hui. Peu de dénivelé entre Nîmes et Carcassonne. Une étape pour les sprinteurs. Mais vous avez choisi de nous parler de tout autre chose ce matin. Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Votre regard s'est arrêté sur un des personnages du peloton, l'ancien vainqueur Bradley Wiggins.
Oui, une légende, le premier Britannique à avoir remporté le Tour en 2012, 8 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, fils de la classe ouvrière du quartier de Kilburn, au nord-ouest de Londres, abandonné par un père violent. Ouigo est devenu millionnaire, anobli par la reine. Il est l'homme des métamorphoses. Le coureur dilettante, DJ en boîte de nuit à 16 heures, s'est converti au mi-temps des années 2000 en pistard redoutable. Pistard, j'entends coureur sur piste. Puis ses entraîneurs l'ont transformé en coureur de grand tour, une allure de robot capable de passer la haute montagne. En 2008, il est l'un des premiers sportifs à courageusement raconter sa dépression. Désormais, Wiggins est le consultant rock'n'roll, un physique de bûcheron, crâne rasé, barbe de hipster et tatouage, qu'importe les codes. Sur la moto de la chaîne Eurosport, il allume en cachette quelques cigarettes tout près des coureurs. Dans son podcast, il passe au crible l'actu du cyclisme et défend l'héritage de son équipe Sky, devenue Ineos. Au printemps dernier, quand son médecin est reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone, Wiggins le défend. Je ne crois pas une seule seconde que c'était pour un coureur, dit-il. La rébellion a des limites.
Sir Bradley Wiggins dans l'œil de Jérôme Cadet. Merci Jérôme, vous êtes avec Hélène Langlois à Nîmes et on se retrouve lundi.
C'était le journal de Florence Paracuellos. À lundi aussi, bon week-end
à lundi.
Florence. On prend des nouvelles du ciel.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Avec vous, Marie-Pierre Planchon, encore des brumes matinales.
Oui, vers Beauvais, vers Dijon, Amélie ou le Val-de-Saône, mais aussi vers Niort ou Bergerac, des grisailles qui vont vite se dissiper. Ailleurs, le ciel est ensoleillé sous le vent en Méditerranée, où le Mistral et la Tramontane se sont levés comme le vent d'ouest sur les Caps Corses. Mais en revanche, une nouvelle petite dégradation arrive sur la pointe bretonne, au Pays de la Loire, à la Normandie, donnant un ciel bien gris, des petites pluies ce matin sous un mercure très contrasté, entre les 6 petits degrés à Val-de-Drôme, 8 en Puy-en-Velay, alors qu'il fait 24 à Bastia et 21 à Nice.
Et vous nous annoncez une belle amélioration cet après-midi, Marie-Pierre.
Oui, mais qui sera temporaire, hein, Amélie, car demain, une goutte froide va de nouveau déclencher des orages sur le nord du pays. Alors, en attendant, profitez bien du ciel qui va s'éclaircir en Bretagne, au Pays de la Loire, cet après-midi, ce qui n'empêchera pas, de temps à autre, une averse de tomber, comme d'ailleurs sur le nord, jusqu'à l'Île-de-France ou à l'Alsace. Quelques cumulus cacheront parfois le soleil du bassin d'Arcachon, Jura, et sur la moitié sud, ce sera plein soleil sous le vent méditerranéen. Et sur le nord, toujours pas des températures de saison, pas plus de 18 à Cherbourg, 19 à Douarnenez, 20 à Abbeville, Rennes ou la Tour d'Auvergne, 21 à Rouen, 24 à Paris et à Strasbourg, comptez 25 à Bordeaux et Lyon, 27 à Toulouse, il fera 29 à Cavaillon, 30 à Béziers, Marseille ou Bastia et 32 à Argelès-sur-Mer.
Marie-Pierre Planchon, merci.